La Chronique Animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, proposé par les antennes locales des associations Cétacé, L214, du Parti Animaliste et par le collectif Nantais pour les animaux.
À retrouver tous les premiers mardis du mois à 18h45 sur le 91.2 FM et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Magali.
Nous allons vous parler de notre association nationale. Cette association s'appelle Cétacé. Nous sommes tous bénévoles. Elle se compose de 5 groupes locaux, dont nous, Cétacé Grand Ouest. Nous militons contre la captivité, la souffrance qui en découle et le massacre des cétacés, comme les dauphins et les orques.
Magali, tu nous parles de massacre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Nous nous focalisons sur deux grands massacres annuels, celui de la baie de Taiji au Japon et celui du Grindadrap aux îles Féroé, situées au Danemark.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans la baie de Taiji ?
Chaque année, de septembre à mars, les pêcheurs encerclent les bancs de dauphins et tapent contre leurs bateaux afin de les effrayer. Les animaux se réfugient alors dans la baie. Les hommes n'ont plus qu'à refermer les mailles de leurs filets. Après avoir sélectionné les individus les plus à même d'être dressés et embarqués vers les delphinariums, ils tuent toutes les autres espèces de cétacés en introduisant une tige directement dans leur colonne vertébrale, ce qui est censé provoquer une mort instantanée. En pratique, ils décèdent rarement sur le coup, mais mettent au contraire de longues minutes à se noyer. Parfois, les mammifères ne décèdent même qu'une fois hissés sur les navires. Ils sont ensuite vendus sous l'appellation « viande de baleine » dans certaines boucheries. Il faut savoir que la viande de dauphin contient de nombreux métaux lourds nocifs à l'être humain.
Et concernant les îles Féroé ?
Le Grindadrap, aussi nommé plus simplement le Grind, est le nom donné à la tradition culturelle de chasse aux cétacés, ciblant principalement les globicéphales noirs, en vigueur dans les îles Féroé. La traduction littérale du mot féroïen, Grindadrap, est mise à mort des baleines. Chaque année, certains habitants tuent par centaines des globicéphales noirs, aussi appelés baleines pilotes, principales cibles de la chasse, mais également des dauphins à flanc blanc et des grands dauphins qui s'aventurent dans les fjords de l'archipel. Cette chasse est régulée par les autorités féroïennes.
Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'on fait concrètement ?
Nous agissons physiquement afin d'informer et de sensibiliser l'opinion publique. Ça se traduit par des happenings, des tableaux vivants, des stands d'information en centre de ville de Nantes. Vous nous avez certainement croisés Place Royale dernièrement.
Et comment se déroule une journée d'action ?
Une fois installés, nous débutons vers 10h et terminons vers 18h. Durant cette journée, des militants tiennent des panneaux, des photos et des banderoles portant des messages qui interpellent le public, participent à des mises en scène et distribuent des tracts. Les passants viennent s'informer auprès de notre stand et peuvent également nous soutenir en achetant des produits dérivés à l'effigie de l'association. Je précise que les fonds récoltés sont utilisés pour l'achat de nouveaux matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'association et à l'organisation d'événements sur le terrain, de campagnes publicitaires, mais aussi afin de couvrir les frais d'avocat lors d'actions en justice.
Est-ce que tu as des slogans à nous faire partager ?
Tuer pour le plaisir au nom de la tradition protégée par l'État. Le Grind, un massacre traditionnel sanglant et inutile. Une mise à mort lente, violente, sanglante.
Alors, on a vu comment se déroulaient les actions en centre-ville. Comment ça se passe devant Planète Sauvage ?
C'est avant tout et surtout un rassemblement pacifique, chaque mois devant le parc Planète Sauvage, durant la saison d'ouverture. En effet, à l'intérieur de ce parc se trouve un delphinarium. À leur arrivée, les visiteurs sont informés, visuellement, sur la triste réalité de ces prisons. Ils peuvent ainsi lire des messages comme « Les parcs aquatiques ne préservent pas, ils enferment »,« Vous pouvez être acteur de leur liberté » ou encore « Je ne suis pas un jouet, n'achetez pas de tickets ».
Mais c'est quoi un delphinarium ?
Un delphinarium est un aquarium pour delphinidés, donc dauphins et orques, et parfois pour d'autres cétacés comme des bélugas, des marsouins ou des dauphins d'eau douce. Le plus souvent, ces animaux vivent dans un ensemble de bassins permettant leur présentation au public, leur élevage, leur dressage et des spectacles. Il y a deux conditions pour détenir des cétacés : introduire une dimension pédagogique dans les spectacles et mettre en place un programme de recherche scientifique. Les delphinariums sont des structures ouvertes au public, détenues par de grands groupes internationaux et faisant souvent partie de parcs, de grands aquariums et de parcs d'attractions. Il en existe sur tous les continents, mais certains pays en comprennent un nombre particulièrement élevé, comme le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis en Floride principalement, le Mexique ou dans une moindre mesure l'Espagne et la Turquie.
Magali, on veut en savoir plus. Combien de cétacés sont enfermés dans les delphinariums français ?
Il existe 4 delphinariums en France, dont 3 en France métropolitaine. L'ensemble de ces structures présente 4 orques et 30 dauphins. Parmi les structures existantes, le plus ancien est celui qui présente le plus de cétacés, le Marineland d'Antibes, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes et présente 4 orques et 11 grands dauphins. Le delphinarium du parc Astérix, en Picardie, situé à 40 km de Paris, il présente 8 grands dauphins. Le troisième, le delphinarium du parc zoologique Planète Sauvage à Port-Saint-Père sur la côte atlantique, situé à 24 km de Nantes, il présente quant à lui 8 grands dauphins. Et le quatrième, le Mouréa Dolphin Center, se trouve en Polynésie française, il présente 3 grands dauphins.
Mais d'où viennent ces orques et ces dauphins prisonniers de ces bassins en France ?
Ils sont issus pour certains de reproductions naturelles ou d'insémination artificielle, mais aussi de transferts entre parcs européens et initialement de captures du continent américain pour la plupart. Pour information, les captures ont été interdites en France dans les années 70, suivies bien plus tard par l'Europe en 1992. Il n'est toutefois pas illégal aux États-Unis, mais il faut un permis et aucun n'a été délivré depuis 1989. De plus, ça déplaît à l'opinion publique.
Depuis plusieurs mois, on entend parler de l'arrêté royal. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
C'est en décembre 2014 que deux députés, ne connaissant pas les problèmes dus à la captivité et touchés par cette réalité, déposent les amendements dans le cadre de la loi biodiversité. Les amendements se voient rejetés. De ce fait, la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, fait un moratoire sur les nouveaux delphinariums afin qu'il n'y en ait plus aucun et s'engage à revoir la législation. Un an après, a été mis en place un groupe de travail avec les delphinariums, les zoos, le service du ministère et à laquelle nous avons eu la chance d'assister à la demande des députés. Une première réunion de travail a vu le jour où nous n'avons pratiquement rien obtenu. Suite à cela, nous nous sommes associés avec plusieurs grosses associations comme la Fondation 30 millions d'amis et envoyé plusieurs courriers. Nous avons fait la demande d'un nouveau rendez-vous afin de remettre 70 000 signatures. Rendez-vous accordé avec les services du ministère. Nous avons obtenu entre autres l'agrandissement ainsi que l'approfondissement des bassins, l'arrêt de l'utilisation de chlore, la mise en place de zones d'ombre, de vagues, de cascades, sans oublier l'interdiction de la reproduction des orques, mais pas celle des dauphins. Nous étions déjà satisfaits car depuis 1981, rien n'avait bougé. Nous nous sommes dit, le parc Astérix, n'ayant pas les moyens de faire des travaux avec la nouvelle norme, sera obligé de fermer le delphinarium. Les autres parcs vont être embêtés, pas de nouveaux delphinariums qui verront le jour, un pas en avant pour nous. Madame Royal signera finalement l'arrêté le 6 mai 2017 et rajoutera sans nouvelle consultation publique l'interdiction de la reproduction des dauphins et des transferts. Nous avons crié victoire. Une belle surprise pour les associations, mais pas pour les parcs qui avaient accepté le premier jet. De ce fait, ils ont tous porté plainte et ont dénoncé l'arrêté au Conseil d'État. Nous avons gagné la première manche le 31 juillet 2017, sauf pour le chlore. Le lundi 12 janvier de cette année, nous avons perdu l'arrêté dans sa totalité par deux instances et pour cause. Nouvel arrêté trop différent du premier, préjudice sur le fond et la forme, et il n'avait pas été revalidé par la consultation publique. L'arrêté est donc annulé, retour sur celui de 1981. Aussitôt, avec les 6 autres associations, nous avons demandé un rendez-vous en envoyant une lettre à Nicolas Hulot, nouveau ministre de l'écologie. Nous avons également contacté les députés et mis une pétition en ligne qui s'intitule « Non à l'annulation de l'arrêté ». Nous n'avons pas l'intention de relâcher la pression.
Alors si je comprends bien, cet arrêté modifie les conditions de captivité, conditions incompatibles au bien-être des cétacés. Explique-nous pourquoi.
D'une part, les cétacés sont enfermés dans des bassins bétonnés toute leur vie. Ils se retrouvent avec un groupe qu'ils n'ont pas choisi et qui n'utilise pas le même langage. Dans la nature, chaque groupe a son propre dialecte. Un dauphin parcourt en moyenne 100 km par jour, une orque jusqu'à 200 km par jour. Je vous laisse imaginer combien de tours ils devraient réaliser dans les bassins pour atteindre ce chiffre.
Mais ça se passe comment quand il y a une naissance ? Parce qu'il me semble que les delphinariums ne peuvent pas dépasser un certain nombre d'individus par bassin.
En effet, une fois le ou les bébés nés, ils restent auprès de leur mère entre 3 et 5 ans et sont ensuite prématurément envoyés dans d'autres parcs afin d'échanger les collections, ce qui occasionne une énorme souffrance pour la maman et son petit.
Est-ce qu'il y a des décès au sein de ces parcs ?
Malheureusement, oui. Le taux de mortalité est 2,5 fois supérieur dans ces bassins que dans la nature. Ces drames peuvent survenir lors de comportements violents entre individus qui ne se sont pas choisis et qui sont obligés de cohabiter ensemble. Un exemple qui s'est produit à Planète Sauvage où une maman a tué involontairement le bébé d'une autre mère lors d'une altercation. Ce qui, dans la nature, n'arrive jamais car lors de disputes, la fuite est possible dans l'océan.
Quel type de souffrance subissent les cétacés captifs ?
Plusieurs ont été constatés, comme la mise en veille de leur système d'écolocalisation qui se répercute comme un miroir sur les parois du bassin et qui occasionne une gêne terrible pour eux, des dauphins obligés de rester en surface pour les visiteurs et par manque de profondeur des bassins. Dans la nature, ils chassent, jouent, se reproduisent et se sociabilisent, ce qui est impossible en milieu captif. Dû à l'enfermement, ils reproduisent des mouvements répétitifs. Un phénomène que l'on peut également remarquer sur toutes les orques captives, c'est que leur aileron dorsal est recourbé alors que dans la nature, seulement 1% est observé. Les delphinariums n'ont pas de zone d'ombre et les animaux sont donc sujets à des brûlures car leur peau est très fragile. Des lésions cutanées dues au chlore.
Tu nous as dit que dans la nature, les orques et les dauphins passaient une partie de leur temps à chasser pour se nourrir. Ça se passe comment dans les bassins ?
La seule nourriture donnée aux cétacés se résume à des poissons morts et congelés. Repas, enfin récompense qui est donnée en fonction de leur performance. L'hydratation, quant à elle, n'étant pas suffisante, les soigneurs utilisent différents moyens pour pallier à ce problème. Ils leur donnent des blocs de gélatine et de glace et des litres d'eau sont introduits directement dans l'estomac de l'animal à l'aide d'un tuyau. Toutes ces sources de stress et ces mauvaises conditions engendrent des maladies. Des médicaments leur sont alors administrés, antibiotiques pour les infections et antidépresseurs avant les spectacles, entre autres. Tout ce que nous venons d'énumérer n'est qu'une partie de la réalité de la captivité. Enfin, les delphinariums prétendent faire de la conservation. Or, ce ne sont pas des espèces en danger d'extinction. Et qui plus est, ils ne sont jamais relâchés. Nous voulons vous faire prendre conscience que ces prisons n'ont rien de pédagogique. Il existe de très beaux documentaires sur la vie de ces animaux sauvages. Des associations existent en France, comme à l'Arc, à Cancale, où vous pouvez sortir en mer avec des biologistes afin d'approfondir vos connaissances et par chance rencontrer des dauphins dans leur milieu naturel. Il est donc important d'éduquer vos enfants en ce sens. Lorsque vous achetez un ticket, vous cautionnez leur souffrance et vous les privez de leur liberté. En conclusion, nous pouvons dire que ces établissements ne sont en aucun cas des lieux amusants. Voir souffrir un animal n'est pas concevable. Un spectacle avec des animaux asservis n'a rien de divertissant. N'hésitez pas à visionner les documentaires The Cove sur les massacres de la baie de Taiji et Blackfish sur la capture et la captivité de l'orque Tilikum, morte l'année dernière. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et soutenir la cause de ces animaux en participant activement à nos actions en ville et devant le parc Planète Sauvage. Prochain rendez-vous le 10 mars devant Planète Sauvage. Nous vous remercions de votre écoute et espérons que votre vision de la captivité aura changé. N'oubliez pas que chaque être vivant a le droit de vivre libre. Merci à tous d'avoir suivi notre chronique et à bientôt.
La chronique animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, le premier mardi du mois à 18h45 sur le 91.2 FM. À réécouter le troisième samedi du mois à 17h45 et en podcast sur jetfm.asso.fr.